Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. We'll be in Ephesians chapter 5 this morning, verses 5 through 14, if you'd like to follow along. Éphésiens chapitre 5. Et nous allons examiner les versets 5 à 14. C'était en préparant ce passage que j'ai vu quelque chose quand même d'assez intéressant. Et je me suis dit, bien sûr, Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dirigé par Dieu lui-même, lorsqu'il a écrit ceci, ben, ce n'était pas pour rien qu'il a mis dans ce passage. Donc, Éphésiens chapitre 5, et je vous dis tout de suite que en fait, la chose à laquelle nous allons arriver, la conclusion, je vous donne la conclusion dès le départ, c'est justement au verset 8. Ephesians chapter 5. Wait, Ephesians chapter 5, from verse 5, to verse 14 is what we'll be looking at. Donc, la conclusion, je vous la donne dès le départ, se trouve au verset 8. Marchez comme des enfants de lumière. En fait, tout ce que Paul va dire dans ce passage va tourner autour de cela. D'ailleurs, c'est pour cela que c'est un peu au milieu. Vous allez le voir. Et nous sommes enfants de lumière à condition d'avoir accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Paul, son principe de base, le point sur lequel il part, c'est que les personnes auxquelles il écrit sont des enfants de Dieu, sont des personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et c'est pour cela qu'il peut leur dire « marcher comme des enfants de lumière ». Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ comme son sauveur personnel n'est pas un enfant de lumière. Ne connaît pas le Seigneur, est encore dans le royaume de ténèbres. Mais ici, Paul s'adresse aux enfants de Dieu, il les appelle des enfants de lumière, des enfants de Dieu. Et ici, dans ce verset 8, Paul dit, marchez, ayez votre comportement comme des enfants de lumière. Mais finalement, on peut se poser la question, mais marcher comme des enfants de lumière, est-ce que ça veut dire qu'il me faut toujours ma lampe torche? Il faut toujours une ampoule avec moi? Il faut toujours que j'ai quelque chose? Maintenant, avec les téléphones portables, ça comporte toujours une lampe torche, on peut allumer et tout. Est-ce que c'est ça qu'il est question? Non, bien sûr que non. Mais finalement, puisque marcher comme des enfants de lumière, ce n'est pas concret, ça. C'est assez théorique. Et chacun peut avoir son idée de qu'est-ce que cela peut être. Et Paul, dans ces versets, finalement, développe autour de ce verset 8 l'idée concrète de qu'est-ce que c'est marcher comme des enfants de lumière. Et ça, vous allez le voir. Puisque 6 fois, Paul va employer un mot. Dans notre texte, on ne le verra que 5 fois. Mais il y est bien dans le texte grec 6 fois. Alors, regardez au début du verset 5. C'est le mot « car ». D'accord ? Début du verset 5, « car ». Et puis, il continue son raisonnement. Au milieu du verset 6, regardez, « car c'est à cause de ces choses ». Donc, de nouveau, le mot « car ». Au début du verset 8, alors, ce n'est pas dans notre texte, mais c'est bien dans le grec, le mot « car » est là. Hein? Début de verset 9, « car » le fruit de la lumière. Début de verset 12, « car » et vers la fin de verset 13, « car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière ». Donc, 3 fois avant cette phrase « marcher comme des enfants de lumière », 3 fois après, Paul va centrer tout son raisonnement autour de cette phrase « marcher comme des enfants de lumière » et va se servir de ce mot « car » pour dire « bon, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire, et voici les conséquences de cela. Et nous allons voir maintenant dans ces quelques minutes qui arrivent cela ensemble, mais il est important de comprendre que Paul, bien sûr, s'adressait à des chrétiens du 1er siècle, il y a pratiquement 2000 ans. Et il ne faut pas se dire, bah, c'était très bien pour nos frères et sœurs d'il y a 2000 ans, mais aujourd'hui nous sommes des gens sophistiqués, nous sommes des gens civilisés, des gens du 21e siècle avec tous nos progrès. Voilà, on lit ces versets, mais bon, peut-être pas trop d'application à nous. Je suis convaincu que c'est la vie de personne ici. Non, on sait que ce passage s'applique bien à nous dans notre vie du 21e siècle ici à Vernon. Et nous allons commencer au verset 5. Nous allons regarder ces trois premiers quarts. Et au verset 5, Paul va faire appel à la connaissance des Éphésiens. Et il est instructif qu'il le fait parce que je suis convaincu que nous aussi, dans notre Église, nous faisons face à la même chose. Vous êtes des gens instruits. Vous êtes des gens intelligents. Vous êtes des gens qui connaissent bien la parole de Dieu. Vous n'êtes pas dans l'ignorance, j'en suis convaincu. Et Paul, ici, fait appel à ça pour les Éphésiens. Il dit « car sachez-le bien ». Et la façon dont il formule la chose, c'est « sachez-le ce que vous savez », en fait. Il dit « vous savez ces choses que finalement vous savez ». Il se répète pour mettre l'accent là-dessus. Il dit « ceci, vous le savez, il n'y a aucun doute ». Mais comprenez, aucun débouché, c'est le mot général pour tout ce qui traite au péché sexuel en général. Aucun débouché. Aucun, ou impur, pardon, ou cupide, c'est-à-dire idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et Paul ici dit quelque chose qui semble comme de l'évidence. Bah, quelqu'un qui pratique de façon habituelle ces choses, qui sont des péchés moraux, qui sont des péchés pour la plupart ici, donc d'ordre sexuel. Souvenons-nous, Éphèse était un centre de l'adoration de la déesse Diane, qui était la déesse donc, à cette époque de la fertilité, donc toute une pratique sexuelle qui allait avec. Et les chrétiens étaient appelés, bien sûr, à ne pas du tout avoir part à cela, à de s'en éloigner. Et Paul va inclure, en plus de la débauche, certaines traductions vont dire la fornication, tout ce qui est en dehors de ce que Dieu a déterminé comme bon au niveau des relations sexuelles, toute impureté, mais aussi il va parler de la cupidité. Et il est très intéressant que Paul va l'exprimer ainsi parce que pour nous, des péchés d'ordre sexuel sont très graves. Et il faut garder cette perspective. La Bible se prononce très sévèrement contre ce genre de choses. Mais la cupidité, ben souvent, bon, on va dire c'est grave, mais on va le mettre sur un rang un peu moindre. On va dire, bon, on est cupide, on cherche pour soi-même, mais bon, ce monde, pour gagner quelque chose, eh ben, il faut se battre, il faut prendre soin de soi, il faut penser à soi, il faut se mettre en avant et toutes ces choses. Et ici, Paul dit, non, tout cela, puisque finalement, c'est de l'orgueil. L'idolâtrie, ici, dont il parle, c'est, en fait, on se met à la place de Dieu. Et cette idolâtrie, Paul dit, ben, on ne peut pas du tout permettre cela dans notre vie. Et quelqu'un, Paul le dit dans ce verset, quelqu'un qui se dit chrétien et se permet de vivre soit dans l'immoralité sexuelle ou même dans la cupidité, Paul dit, eh ben, cette personne montre que on peut avoir des doutes sur son salut. Cette personne montre que cette personne n'est probablement pas sauvée. Et cela peut sembler dur, puisqu'on se dit, mais c'est Dieu qui juge les cœurs. Qui suis-je, moi, pour juger une autre personne? Mais si on n'avait pas ce verset, moi je ne me permettrais pas de le dire. Mais ce verset, Paul dit, quelqu'un qui pratique ces choses n'est pas sauvé. Puisque faire partie du royaume de Christ et de Dieu, c'est en fait être sauvé. Et Paul dit, quelqu'un qui continue, qui a sa vie dans ces choses, même si cette personne se dit sauvée, finalement manifeste que non. Et Paul dit, bah, vous savez cela, Éphésiens, alors ne le faites pas vous-même, bien sûr, et ne supportez pas les gens qui disent qu'ils sont sauvés, mais qui continuent dans ses péchés. Et aujourd'hui, dans le christianisme, il y a un mouvement qui s'appuie beaucoup sur la grâce. D'ailleurs, ce mois-ci, le mois d'octobre, à la fin du mois, ce sont les 500, l'anniversaire des 500 ans de la Réforme, où Luther, le 31 octobre, a affiché ses 95 thèses et qui a été un peu le moteur de la Réforme. Et Luther mettait beaucoup sur la grâce. Ben, on est sauvé par grâce, ce ne sont pas les œuvres, mais c'est la grâce. Et aujourd'hui, il y a un mouvement dans le christianisme qui consiste à dire, parce qu'on est sauvé, Dieu nous accueille tel que nous sommes, gloire à Dieu, il nous sauve. Et à cause de la grâce de Dieu qui pardonne tout, plus ou moins, on peut vivre comme on veut, et la grâce de Dieu ben, nous pardonnera et tout. Et c'est faux, c'est faux. Dieu dit dans sa parole, ses enfants se comportent d'une certaine façon, et ses enfants s'interdisent certaines choses. Et Dieu exige un certain nombre de choses de ses enfants. Et ici, Paul dit, eh ben, ces personnes qui se disent sauvées et qui continuent de pratiquer des péchés, que ce soit des péchés moraux ou autres, manifestent par cela que finalement, ils ne sont pas sauvés. C'est la Bible qui le dit. Et verset 6, Paul met en garde parce que contre quelque chose de tellement sévère, tellement dur, de dire à quelqu'un, finalement, ta vie manifeste que tu n'es pas sauvé. Bah, c'est grave, ça. C'est très dur. Personne ne voudrait entendre cela. Quelqu'un qui se dit chrétien et que finalement, on lui dit, mais finalement, non, tu ne l'es pas. Oula, on en prend un coup, n'est-ce pas? Et Paul dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Il pourrait y avoir des personnes qui essaient de dire « Oui, je reste dans mon péché, je ne cherche pas à faire des progrès, je ne vois pas de problème avec ce que je suis en train de faire, même si c'est contre la Bible. Et pourtant, je me dis « sauvé ». Paul dit « Ah non, ne vous laissez pas séduire. Tenez-vous à la vérité, puisqu'il dit « car », de nouveau, notre mot, « c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Dieu n'est pas indifférent au péché. Si quelqu'un qui se réclame du nom de Dieu persiste dans le péché et ne cherche pas à en être délivré, ne cherche pas à faire des progrès par la grâce de Dieu, d'enlever cela de sa vie, Paul dit, bah, cette personne est encore sous la colère de Dieu. Nous sommes dans la rébellion, si nous sommes dans ce cas de figure. Et Paul dit, c'est extrêmement grave. On parle beaucoup aujourd'hui de la tolérance, et qu'il faut être tolérant des gens qui font des choix. Si quelqu'un décide de vivre de telle ou telle façon, bah, il faut être tolérant. Et il faut être tolérant avec tout le monde, sauf les chrétiens. Ça, les chrétiens, non, les chrétiens doivent se conformer à tout le monde, mais on peut tolérer tout et n'importe quoi, sauf les chrétiens. On dirait que c'est le monde aujourd'hui, la perspective du monde. Et nous voyons que Dieu, bah, il ne tolère pas le péché. Et parce que Dieu ne tolère pas le péché, nous non plus, nous ne devrions pas tolérer le péché dans notre propre vie, bien sûr, mais non plus dans la vie des autres. Quelqu'un qui se dit chrétien, Paul l'avait déjà dit aux Corinthiens, de ne même pas manger avec cette personne. De reprendre cette personne. Et d'ailleurs, Paul va revenir là-dessus dans ce passage. Puisque c'est porter atteinte au nom de Dieu. C'est quelque chose de très très grave. S'afficher en tant que chrétien et pourtant ne pas avoir la vie qui va avec, le témoignage qui va avec, c'est une incohérence totale. Et Paul dit, il y a la colère de Dieu qui est encore là. Et verset 7, on comprend, n'ayez donc aucune part avec eux. Mais rien du tout. Puisque ces personnes qui professent la vérité, qui professent appartenir à Dieu, font tout le contraire finalement de ce que Dieu attend. Ce n'est pas une manque de connaissance qu'ont ces personnes. Ces personnes connaissent l'évangile. Donc, oui, il faut chercher à les ramener à l'évangile, mais ce n'est pas comme si c'est quelqu'un qui est totalement ignorant. Non, ces personnes ont la connaissance, mais choisissent délibérément de ne pas vivre comme Dieu le veut. Et Paul dit, ces personnes-là, n'ayez donc aucune part avec eux. Puisque, à ce moment-là, on approuverait ce qu'ils sont en train de faire. Et Paul dit, on ne peut pas tolérer le péché, ne pas se laisser séduire, parce que Dieu est très clair sur le péché. Le péché, c'est ce qui a conduit Jésus à mourir sur la croix. Et nous ne pouvons pas du tout avoir une attitude indifférente par rapport à cela. C'est extrêmement grave, le péché. Bien sûr, le pardon de Dieu est là, gloire à Dieu. Et pour pardonner le péché, le pardon de Dieu, il est immense. Et il est merveilleux. Mais quelqu'un qui persiste dans le péché, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, Dieu ne peut pas tolérer. Et là, au début du verset 8, Paul, il emploie de nouveau ce mot que nous avons vu, « car », même si ce n'est pas dans notre traduction, je l'ai ajouté à côté, car autrefois, vous étiez ténèbres. Et ici, Paul rétablit l'équilibre pour éviter une sorte d'orgueil chez les Éphésiens, parce qu'il y a cette tendance en nous qui est de dire, quelque part, on est meilleur. Nous sommes venus à la vérité, gloire à Dieu. Nous ne vivons pas comme cela. Aujourd'hui, nous vivons pour Dieu, gloire à Dieu. Mais Paul dit, attention. N'oubliez pas d'où vous êtes venus. Vous, autrefois, vous étiez ténèbres. Vous étiez en dehors du royaume de Dieu. Vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés, chapitre 2 de cet épître. Vous étiez ténèbres. Il a dit, voici votre condition avant, alors n'oubliez pas cela. Je suis encore pécheur, sauvé par grâce. Et même si je n'ai pas commis les pires péchés, j'étais en rébellion contre Dieu, même en tant qu'enfant. Ça, c'est notre vie autrefois. Et parce que nous étions comme cela et qu'il y a beaucoup qui sont encore dans cette catégorie, ça doit nous pousser à leur témoigner et ça doit nous pousser à les avertir de cela. Vous étiez ténèbres. Et là, gloire à Dieu, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Il y a eu une transformation. Vous savez, vous rentrez dans une pièce où il fait nuit. Tout est noir. Et là, vous allumez la lumière. Et là, vous voyez tout. Là, vous voyez la table. Là, vous voyez la chaise. Vous voyez toutes les choses qui sont dans la pièce. Quelle transformation! Les ténèbres impliquent sombre. Les ténèbres sont souvent associées un peu au découragement. Et ici, les ténèbres, cet état de ténèbres, c'est notre état avant le salut. Mais maintenant, gloire à Dieu, non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce que Jésus a fait sur la croix et que nous l'avons accepté, nous nous sommes appropriés cela. Nous sommes lumière dans le Seigneur. Ce changement. Voilà pourquoi on dit on n'est pas chrétien. On est tous pécheurs et on devient enfant de Dieu. On passe des ténèbres à la lumière. Il faut, à un moment donné, accepter le Seigneur comme son sauveur personnel. Et une fois qu'on le fait, bah, gloire à Dieu, lumière. Et le dimanche matin, alors qu'on est assis plus ou moins confortablement sur les chaises, dans une pièce où on s'encourage tous, où on est devant la parole de Dieu, il est facile de dire, oui, je suis lumière, oui, gloire à Dieu, je vais agir pour le Seigneur, je vais témoigner et tout. Demain matin, alors qu'on va aller au travail, alors qu'on va aller peut-être faire ses courses, on va vivre sa vie de tous les jours, à ce moment-là, il sera beaucoup plus difficile de dire, bah, je suis lumière. Les ténèbres qui sont dans ce monde cherchent à éteindre la lumière des chrétiens. Il y a une lutte qui est là. Et en tant qu'enfants de Dieu, si nous le sommes, il faut se souvenir que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et la lumière, pour vaincre les ténèbres, qu'est-ce qu'il faut ? De briller, tout simplement. De briller, et ici, c'est notre façon de vivre. Et c'est ce que Paul dit à la fin de verset 8. La réalité, c'est que nous sommes lumière dans le Seigneur, encore une fois, à condition que nous l'avons accepté par la foi. Mais si tel est le cas, la réalité, c'est que nous devons marcher comme les enfants de lumière. Il est totalement incohérent de dire « j'appartiens à Dieu ». Je suis enfant de Dieu. Un jour, j'ai placé ma confiance en Dieu pour le salut. Et puis, de sortir et de parler comme le monde, comme nous avons vu la semaine dernière, d'agir comme le monde, d'avoir les mêmes priorités que le monde, totalement incohérent. Je ne suis pas grand fan du sport, le foot, toutes ces autres choses. Bon, j'aime regarder de temps en temps des sports, mais bon, je ne suis pas très près. Mais ayant grandi dans le Massachusetts, pas très loin de Boston, je connais les équipes de Boston. Et je suis content lorsqu'ils gagnent et tout. Bon, mais quelqu'un qui me dit, voilà, je suis supporter, je suis fan de l'équipe de Boston. Ok, très bien. Les noms des joueurs. Bon, je ne sais pas. Et c'est quand leur prochain match ? Oh, je ne sais pas, peut-être dans quelques jours. Ok, bon. Et c'est quand la dernière fois qu'ils ont gagné ? Oh, je ne sais pas, je ne regarde pas les matchs. Ok. Et tu t'appelles fan ou supporter de ça ? Ou bien il se dit fan de l'équipe de Boston, mais il commence à me citer tous les résultats de l'équipe de New York. J'allais dire les ennemis, ce ne sont pas les ennemis, mais les rivaux de Boston. Non, mais tu te dis fan de l'équipe de Boston, mais tu me cites toutes les choses de l'équipe de New York. Ça ne va pas, n'est-ce pas? Et ici, bien plus qu'être fan ou supporter, vous l'avez compris, nous disons enfants de Dieu, enfants de lumière, et nous agisserions comme des enfants de ténèbres. C'est tellement incohérent. Et Paul dit, marchez, continuez, c'est dur, il faut de l'effort, mais marchez comme des enfants de lumière. Vos priorités doivent être des priorités de Dieu. Vous êtes là ce matin, gloire à Dieu. Vous faites de cela une priorité. Il faut continuer. Et au verset 9, nous rencontrons de nouveau ce mot « car ». Puisque marcher comme des enfants de lumière, ça se met en pratique. Ce n'est pas simplement théorique, c'est la façon de vivre tous les jours. Et Paul dit ici « car », donc la conséquence de marcher dans la lumière va se voir de cette façon-ci. Le fruit de la lumière, donc ce que produit la lumière, consiste en toutes sortes de bonté. Les chrétiens, les enfants de Dieu, doivent être connus pour être les entre guillemets les meilleurs gens là où ils sont. La bonté, aller vers l'autre, aider, apporter ce qu'il faut en termes matériels, émotionnels, même spirituels. C'est l'action en fait. La bonté est tout le contraire de l'indifférence. La bonté, c'est agir pour l'autre. On peut associer le mot aussi amour que les chrétiens sont appelés à manifester. Si nous nous disons enfants de Dieu, bah, il est évident que nous allons agir avec bonté. Et d'examiner sa vie et de se demander, bah, est-ce que je suis connu pour la bonté? Est-ce que les gens peuvent penser à moi quand ils disent le mot bonté? Ça doit être le cas. Et puis, de justice. Pour les parents, ceci est important. De s'assurer qu'ils établissent la justice entre les enfants. Et ce n'est pas toujours facile. C'est rarement facile d'ailleurs. Parce qu'un enfant va raconter, oui, il m'a tapé en premier, et puis l'autre va dire, non, c'est lui, ben, vous serez punis tous les deux. Bon. Mais les parents, par la grâce de Dieu, doivent agir avec justice envers leurs enfants. Et puis, le chrétien, l'enfant de Dieu, l'enfant de lumière, doit agir avec justice dans ce monde d'injustice. Et c'est probablement là où c'est le plus difficile. Puisque notre raisonnement humain pourrait nous faire penser, bah, ce monde agit avec injustice, je ne suis qu'une seule personne, qu'est-ce que moi je peux faire? Alors, comme tout le monde agit avec injustice, moi aussi je vais agir avec injustice, je ne peux pas faire autrement. Et la Bible nous montre que, en tant qu'enfant de Dieu, devant même l'injustice, nous sommes appelés à agir avec justice. Quelqu'un nous fait du mal, ce qui arrive, ben nous n'avons pas le droit de rendre l'appareil. Nous n'avons pas le droit d'agir avec méchanceté, avec fraude, avec injustice. Non, nous sommes appelés, Dieu exige de nous quelque part, à travers ces versets, que nous soyons connus pour la justice, quelle que soit la situation devant laquelle je suis. Et puis bien sûr, associé à cela, il y a la vérité. La vérité qui manque cruellement dans ce monde, n'est-ce pas? Vous savez, aujourd'hui, chacun a sa vérité. Tant qu'on y croit, tant qu'on est sincère, tout le monde a raison. J'aurais bien aimé cela il y a quelques jours quand j'ai passé l'examen du code. Que tout le monde ait raison. Ben, peu importe, j'appuie sur A, B, C, D, toujours la bonne réponse. Mais non, c'est pas comme ça. Il y a des réponses qui sont justes, il y a des réponses qui ne le sont pas. Et la vérité doit caractériser le chrétien. L'enfant de Dieu ne peut pas du tout se permettre ni les inexactitudes, ni le mensonge ouvert. Parce que le monde va se le permettre. Le monde va dire, bah, c'est pas grave tant qu'on ne le sait pas. Tant qu'on ne le découvre pas, ce n'est pas grave si je dis une demi-vérité, qui est d'ailleurs un mensonge total. Le monde va dire, bah, de toutes les façons, tout le monde le fait, alors voilà, je vais le faire aussi. Je ne peux pas faire autrement, dit le monde. Et mes parents disaient toujours, et vous l'avez certainement entendu, eh ben, si tout le monde sautait d'un pont, est-ce que toi tu le ferais aussi? Peut-être certains le feraient, je ne sais pas, mais je ne pense pas que moi je le ferais. Si tout le monde sautait d'un pont, ben, pourquoi est-ce que moi je le ferais? C'est dangereux. Et l'enfant de Dieu, l'enfant de lumière, parce qu'il est l'enfant de lumière, parce qu'il représente Dieu, parce qu'il reflète le caractère de Dieu, doit agir, oui, avec bonté, avec justice, avec vérité. Qu'il ne soit jamais soupçonné chez nous le mensonge. Qu'on ne nous accuse jamais d'agir avec méchanceté. Qu'il y ait toujours de la justice, de l'équilibre en nous. Et au verset 10, Paul explique quelque chose qui est tellement important. Examinez. Alors, examinez, oui, cet examen, mais vérifiez. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Éprouvez. Regardez jusque dans les moindres détails ce qui est agréable au Seigneur. La vérité, la justice, la bonté sont des choses qui sont agréables à Dieu. C'est là-dessus que nous devons passer notre temps. La méchanceté, les mauvaises paroles, une mauvaise attitude ne sont pas des choses sur lesquelles nous devons passer notre temps. Ce que nous regardons à la télé, la plus souvent, va aller dans le sens de l'injustice, va aller dans le sens de la méchanceté. Ce que nous entendons à la télé sera de mauvaises paroles. Et en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi est-ce qu'on passerait notre temps à cela? Bien sûr, il faut se tenir informé. Nous vivons dans ce monde, nous évoluons dans ce monde, alors il faut se tenir informé des actualités. Mais ce n'est pas ça qui devrait occuper la plupart de notre temps. Nous devons examiner, regarder avec un soin minutieux ce qui est agréable au Seigneur. Et qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? C'est ce qui se trouve dans sa parole. Ce qui implique de passer beaucoup de temps dans la parole. Si nous passions autant de temps dans la parole qu'on passait à regarder la télé, ou même à être sur Internet, je suis convaincu qu'il y aurait des changements dans notre vie. Et je parle pour moi-même aussi. Bien sûr, la télé, l'Internet, toutes ces autres choses peuvent être bonnes. Mais si nous ne passons pas du temps dans la parole de Dieu, nous faisons le mauvais choix. Parce que Paul dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Pas simplement à nous-mêmes, pas au monde, non. Prenons nos repères dans la parole. Et au verset 11, Paul va dire, bien sûr, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Le monde aujourd'hui cherche par tous les moyens de faire des progrès. On parle maintenant d'aller non seulement sur la Lune, mais on parle maintenant d'aller sur Mars. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher là-bas? Je ne sais pas trop, parce que de toutes les façons, ils ne trouveront rien. J'en suis convaincu. Il ferait mieux de dépenser leur argent pour des recherches ici. Bon, ça c'est toute notre discussion. Mais les œuvres des ténèbres sont infructueuses. Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte de Dieu. Ce que l'homme fait sans Dieu n'aura pas de valeur éternelle. Et nous, lorsque nous examinons comment nous agissons jour après jour, nos priorités, ce sur quoi nous mettons l'accent, est-ce que nous pouvons dire que ce que nous faisons va porter du fruit éternel et quelque chose vraiment à la gloire de Dieu? Ou est-ce que plutôt je passe mon temps à des choses qui font partie de ces œuvres infructueuses? Et dans les œuvres infructueuses, on peut mettre pas simplement le péché et tout ce qui s'ensuit, mais parfois des choses inutiles. Lorsqu'on gaspille son temps, quelque chose sur lequel Paul va revenir au verset 16, racheter le temps. Lorsqu'on gaspille notre temps, finalement, c'est participer à ces œuvres infructueuses des ténèbres. Lorsqu'on ne met pas Dieu à la première place, pareil. Et Paul dit, au lieu de prendre part à cela, au lieu de s'associer à ces œuvres infructueuses, il faut les condamner. Il faut les appeler telles qu'elles sont, ces œuvres infructueuses. Ne pas les excuser, ne pas essayer de chercher à dire, je le fais, mais bon, c'est pas bien grave. Non, de dire, oui, c'est grave, c'est un péché, et je vais éliminer cela par la grâce de Dieu, de les condamner, puisque Dieu les condamne. Et Paul dit au verset 12, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. qui vous êtes réellement se manifeste lorsque vous êtes tout seul. Quand vous êtes en groupe, ben, on se limite par moment. On met une certaine façade. On donne une certaine image. Lorsqu'on sait que les gens nous regardent, ben, on se tient bien. Mais quand vous êtes tout seul, les choix que vous faites, les choses que vous dites si vous parlez quand vous êtes tout seul, manifestent qui vous êtes réellement. Qui vous êtes réellement se voit lorsque vous êtes tout seul. Et ce qu'on fait en secret montre quelles sont nos priorités. Quand personne d'autre regarde, quels sont les choix que je fais? Comment est-ce que j'emploie mon temps lorsque je suis tout seul? Et ici, Paul dit, il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas du tout participer. Mais là, il ne faut pas penser aux pires choses, mais il faut aussi mettre là-dedans tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Et Paul dit, nous ne pouvons pas du tout nous associer à cela. Verset 13, tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Le monde est dans les ténèbres. Le monde ne pourra pas apporter la lumière. D'où viendra la lumière si nous ne l'apportons pas? D'où viendra-t-elle? Ah ben, de nulle part. Les enfants de Dieu qui sont en réalité des enfants de lumière, c'est eux qui vont apporter la lumière. Et si nous ne le faisons pas, qui le fera? Si nous ne condamnons pas certaines pratiques, certaines priorités, certaines paroles, si nous ne le faisons pas, qui le fera? Nous apportons la lumière. Et c'est en condamnant. Et nous pouvons condamner avec amour. Malheureusement, le monde pense que la condamnation est toujours quelque chose de dur, qui manque d'amour. Non, la condamnation peut être avec amour. Puisque la condamnation montre qu'on s'est écarté de ce qu'il fallait et que finalement on cherche à ramener. Mais la condamnation n'est pas toujours dure, vide de tout sentiment, de tout amour, non. Lorsque nous condamnons, lorsque nous réprouvons, comme dit ce passage, bah, nous manifestons la lumière. Et lorsque nous manifestons la lumière, ça permet aux gens de se remettre en question. Ah oui, c'est vrai. Quelqu'un qui est dans le noir ou qui est dans l'obscurité et qui a quelque chose sur le visage, bah, ne le sait pas. Si on allume la lumière et là, dans le miroir, il voit qu'il a quelque chose sur le visage, bah, là, il va pouvoir faire quelque chose. Mais si on n'allume pas la lumière, qu'est-ce qu'il va faire? Et Paul dit ici, nous apportons cette lumière. Nous condamnons, oui, mais toujours dans le but de ramener, toujours dans le but de manifester ce que Dieu, lui, il veut. Et finalement, c'est positif, puisqu'on annonce le pardon en Dieu lorsque les gens se repentent. Et cette lumière, c'est nous qui nous l'apportons. Mais si nous agissons comme le monde, si nos priorités sont comme le monde, si nous sommes à quelque chose près, identique au monde, comment pouvons-nous espérer leur montrer que ce qu'ils font n'est pas bien, si nous faisons les mêmes choses? Ce n'est pas possible. Il nous faut être différents pour pouvoir leur montrer que ce qu'ils font n'est pas bien et qu'ils ont besoin de changer. Et c'est là où Paul arrive au verset 14. Il cite de l'Ancien Testament le livre d'Ésaïe. Parce que la lumière manifeste, fait apparaître, nous montre ce qui est réellement, c'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ s'éclairera. Cette lumière que nous avons, elle ne vient pas de nous, en réalité. Elle est en nous, gloire à Dieu, si nous connaissons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Mais cette lumière, elle n'est pas la nôtre. C'est la lumière du Christ. C'est la lumière divine. Si nous connaissons Christ comme notre sauveur personnel, nous avons la lumière divine en nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous avons la possibilité d'apporter ça aux autres. Et parce que nous avons la lumière divine en nous, pour quelle raison au monde voudrions-nous être comme le monde? C'est tellement illogique. Ça va contre tout sens. Et pourtant, si nous sommes honnêtes, nous, et je me mets là-dedans, nous faisons le choix de nous conformer au monde plus qu'on ne voudrait admettre. Nous possédons cette lumière de Dieu, si nous sommes sauvés. Et qu'est-ce que nous en faisons? Le monde attend quelque chose de différent. Le monde a assez de choses qui lui ressemblent. Le monde, avec les meilleurs moyens, la plus grande intelligence, les meilleurs programmes, est toujours à la recherche de quelque chose qui va satisfaire, qui va vraiment apporter ce dont ils ont besoin. Et si nous, enfants de Dieu, nous ne leur montrons pas quelque chose de différent, qu'est-ce que nous faisons? À quoi bon de nous appeler enfants de Dieu s'il n'y a pas de différence? À ce moment-là, arrêtons de nous appeler enfants de Dieu. Soyons au moins honnêtes. Mais nous sommes enfants de Dieu si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et ce qui est merveilleux, c'est que Christ, par sa puissance, nous rend capables d'être différents. Oui, c'est dur. Être différent, c'est toujours dur. On expérimente tous à plusieurs niveaux. On est différent, soit par la taille. J'étais toujours différent, moi. Petit, voilà. Même au lycée, on se moquait de moi et tout. Bon, on est différent. Soit par les aspects physiques, par les aspects peut-être financiers, les aspects sociaux, les aspects de l'intelligence aussi. Certains sont plus intelligents que d'autres. Et malgré tout cela, ces différences, parce que c'est dur d'être différent, nous n'osons pas. Nous essayons de nous fondre un peu dans la masse. Et Dieu dit, pour mes enfants, je ne veux pas ça. Et je vous rends capable de ne pas vous conformer. Je vous rends capable d'être différent, d'éclairer, d'apporter cette lumière, de condamner là où il faut, de dire ceci n'est pas bien. Sur la base de la parole de Dieu, cela est condamnable. On ne peut pas le faire, il faut changer. Et voici ce qu'il faut faire à la place. Et l'appel de Paul ici, aux Éphésiens, pour nous aujourd'hui, 21e siècle, c'est si nous connaissons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, de vivre, de marcher, d'avoir notre comportement en tant que tel, d'éclairer, d'être ses lumières, ses témoins, là où nous sommes. Ce sera une lutte. L'ancienne nature voudra prendre le dessus. Nous allons voir nos collègues de travail qui vont mal parler, qui vont employer des paroles peut-être grossières, qui vont se moquer de nous, peut-être. On sera rejeté. On nous persécutera peut-être un jour. Ce ne sera pas aujourd'hui, mais peut-être un jour. Et qu'est-ce que nous allons faire? Dans notre foyer, est-ce que notre foyer, si nous sommes enfants de Dieu, est-ce qu'il est différent des foyers inconvertis autour de nous? Notre comportement, nos paroles, nos priorités doivent se conformer à ce que nous disons, c'est-à-dire enfants de Dieu. enfant de lumière, il est possible de l'être, de manifester cela. Allons-nous le faire? Allons-nous laisser Christ, par sa puissance, nous éclairer, manifester cela autour de nous? Ça, c'est un choix que nous devons faire. Et c'est quelque chose de progressif. Est-ce que dimanche prochain, on aura manifesté plus la lumière de Dieu qu'aujourd'hui? Je prie que oui. Je prie que ce soit le cas dans ma vie, ainsi que dans la vôtre. Mais c'est Dieu qui le fera. Mais il faut lui laisser la place de le faire. Il faut faire appel à son aide. Il est capable, il est prêt, il veut le faire. Il faut lui demander. C'est ce que nous voulons faire dans ce moment de prière pour terminer. Demander l'aide de Dieu personnellement dans notre intérieur. Alors prions, demandons l'aide de Dieu pour cela, pour cette semaine qui arrive. Oui, Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse et nous te remercions que tu es fort, que tu ne nous lâches pas, que c'est ta puissance qui est à notre disposition. Merci pour ce que tu fais en nous. Merci pour ta parole qui nous montre sans ambiguïté ce que tu attends de nous. Merci pour la possibilité que tu nous donnes de vivre pour toi dans ce monde de ténèbres. Et nous demandons ton aide. Nous sommes insuffisants. Parfois, nous ne savons pas comment agir. Nous ne savons parfois même pas quoi penser. Nous faisons appel à ton aide. Qu'il soit évident que c'est toi qui interviens dans notre vie, que c'est toi qui nous anime, que nous ayons cette marche de lumière que toi seul tu peux faire. Je prie pour chacun tout au long de cette semaine que les gens autour de nous puissent te voir à travers nous, que tu nous donnes d'agir, de parler là où il faut, avec amour, de reprendre, d'être clair sur les vérités bibliques. Et Seigneur, que tu fortifies chacun et que tu continues d'accomplir cette œuvre que toi tu as commencé et que toute la gloire te revienne pour cela, parce que tu es grand, parce que tu es digne. Parce que c'est toi qui le feras. C'est en ton nom que nous prions. Amen.